Le dossier de ce soir nous emmène au Kassai, au Congo central, où 5 jours après la signature officielle de la convention des constructions du port en eau profonde de Banana entre la RDC et les Émirats arabes unis, les réactions tombent de partout, notamment des opérateurs économiques, politiques, de la société civile, ainsi que des habitants du Congo. Tous sont unanimes pour saluer ce projet, mais la société civile de Moanda émet certaines inquiétudes. Dossier signé Guérougé Niampala.
Du côté des opérateurs économiques, Maxime Nzinga, président provincial de l'Union des déclarants en douane du Congo central, dit bravo au gouvernement pour plusieurs raisons par rapport à ce projet.
On est très heureux parce que ça a de l'impact économique, donc ça va booster de l'emploi. Donc du coup, ça va accroître le nombre de navires ainsi que la quantité en termes de conteneurs à réceptionner dans les territoires congolais. Pour nous, c'est un travail en plus, donc nous sommes bien d'accord avec le gouvernement, étant donné que si la province du Congo central est développée, ça aura des impacts positifs dans les autres provinces aussi du pays.
Autre réaction, c'est celle du maire de la ville de Matadi, Patin Zouziwa Makengedi. Pour lui, ce port en eau profonde de Banana est une victoire du chef de l'État Joseph Kabila, qui selon lui matérialise un Congo émergent. Selon lui, 5 000 emplois directs et 15 000 indirects seront créés. Dans le territoire de Moanda sur place, la société civile salue, mais elle déplore la non-implication de la population dans les préparatifs pour l'aboutissement de ce projet. Gerson Sissivimbi, coordonnateur de la société civile de Moanda.
Tout ce qui est projet sociaux qui peut amener de l'emploi à Moanda est le bienvenu. Mais sauf que pour nous, nous avons dit que la population n'est pas informée de ce qui va se passer. Ça, le comble des malheurs. Nous avons voulu que nous soyons associés et que nous comprenions exactement ce qui va se faire. Ce n'est pas dans le sens de bloquer ce qui va se faire dans notre territoire parce qu'on en a besoin d'ailleurs. On a fait des études d'impact environnemental. Mais qu'est-ce qui a été prévu par rapport aux dégâts aux cultures qui va se passer? Nous avons lu les textes, on n'a pas vu quelque part où on en parlait de ça. Tout ça sont des questions qu'on pensait poser.
Notez que DP World, l'entreprise qui construira ce port en eau profonde, va créer une co-entreprise avec un contrôle de 70% et le gouvernement de la RDC détiendra une part de 30% dans ce port de Banana. Première phase estimée à 350 millions de dollars américains. Il comprendra un quai de 600 mètres et une extension de cour de 25 hectares d'une capacité d'1 500 000 cargaisons. Ce port en eau profonde s'étendra précisément sur 37 kilomètres. Sa construction devrait débuter cette année selon la convention signée. Les travaux vont durer 24 mois. La société Emirati gérera ce projet pendant 30 ans avec une option de prolongation supplémentaire de 20 ans. Matadi, Guérougé Niampala, Radio Okapi.
L'invité.
Le ministre de l'Intérieur du Kassai Central est notre invité ce soir. Mathieu Ntolo revient sur les mesures prises par son gouvernement pour mettre fin à l'insécurité à Kananga et dans d'autres territoires de la province. Parmi celles-ci, un plan de récupération des armes qui circule au sein de la population depuis les derniers événements de Kamuina Sampou. Dans cet entretien, le ministre de l'Intérieur du Kassai Central révèle également qu'un arrêté interdisant la production et la commercialisation locale d'armes a été signé par le gouvernement. Mathieu Ntolo est interrogé par François Kadima.
Monsieur Mathieu Ntolo Moutataï, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Des cas de vol perpétrés par des hommes en armes se sont multipliés ces derniers jours à Kananga. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce regain d'insécurité dans la ville?
Nous sortons d'une très longue période de crise qui a opposé ce que l'on a solennellement appelé la milice de Kamuina Nsapho face aux forces de l'ordre. Et cette milice avait recruté ou aligné des dizaines de milliers de jeunes gens à travers la province. Des efforts ont été déployés pour que les hostilités prennent fin. Nous y sommes parvenus, je peux dire aujourd'hui, presque à 99%. Ce climat qui a été dans la province fait que il y a des rebondissements et nous faisons face à cela avec beaucoup de professionnalisme avec notre police. Je sais que ça prendra fin incessamment.
La police nationale congolaise, à travers les patrouilles nocturnes, s'est engagée à traquer ce bandit, mais elle s'est dit confrontée à un problème de moyens. Qu'envisage le gouvernement provincial pour l'aider à bien faire le travail?
Vous savez, en termes de moyens, on ne peut jamais dire qu'on a atteint l'effectif de moyens voulu. Chaque fois qu'il y a un besoin supplémentaire qui se crée, c'est qu'il faut toujours adapter les moyens. à ce besoin-là. Hier, on a fait face à certaines réalités sécuritaires. Nos moyens étaient appropriés. Aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Nous adaptons nos moyens. Et je crois que les moyens que nous avons sont suffisants pour pouvoir réussir nos actions sur terrain. Il y a un grand nombre de bandits qui ont été arrêtés, ce qui veut dire que les moyens ont permis qu'ils puissent mener des actions avec beaucoup d'efficacité. Mais quant à nous d'améliorer progressivement selon les besoins qui se présentent, et nous nous attelons à ça, nous nous déployons pour que nous adaptons progressivement nos moyens en fonction de ce qui se présente comme problème en face de nous.
Pendant les événements de Kamuina-Sapo, plusieurs armes ont été récupérées par le milicien. Parmi les personnes qui opèrent dans la nuit, certains civils sont pointés du doigt. Alors, comment faire pour récupérer toutes ces armes devenues un danger pour la population?
Il y a un programme du gouvernement provincial qui passe non seulement par la récupération des armes, puisque parmi les armes qu'on a récupérées, il y a non seulement des armes de guerre classiques, mais aussi des armes de fabrication locale. Il y a aujourd'hui des revolvers de fabrication locale produits par des forgerons de la province. Le gouverneur a commencé d'abord par prendre un arrêté qui non seulement interdit la production des armes localement, armes de chasse, petits calibres, tout ce que vous pouvez entendre par là, la commercialisation des munitions, tout ce qu'on peut appeler munitions de chasse, ainsi de suite, et en plus de ça, même la commercialisation des armes. Et je suis chargé comme ministre de l'Intérieur de veiller à sa stricte application. Des deux, la province a un plan de récupération de tout ce qu'il y a comme armes. C'est-à-dire, par armes, nous entendons armes de guerre dans les mains des miliciens, des bandits, et armes de fabrication locale dans les mains des miliciens. Il y a un autre aspect. Il ne suffit pas seulement de récupérer, mais il suffit aussi d'identifier qui porte les armes, puisqu'il y a les hommes de bonne foi que l'on connaît, qui ont les permis de port d'armes accordés par le ministère national de l'Intérieur. C'est un plan que nous appliquons avec beaucoup de sérieux pour identifier ceux qui ont les armes dans notre province.
Voilà, vous nous parlez de certaines mesures prises pour récupérer les armes. Vous pensez qu'elles sont suffisantes pour une paix durable au Kasaï central?
Vous savez, le Kasaï avait toujours vécu dans la paix. La paix, c'est pas une nouveauté pour les Kasaïens, puisqu'ils ont toujours vécu dans la paix. Il y a eu des événements qui ont troublé la paix. Nous allons aider la population à retourner dans son état originel. Il faut que nous devenions cet oasis de paix qui a été convoité par toute la République. Tout le monde, à l'est, à l'ouest, on nous louait que la paix qui régnait ici au Kasaï. Alors, avec toute la population, la devise d'ailleurs que nous avons, notre gouvernement provincial, c'est de pouvoir gérer ensemble. Cette action n'incombe pas seulement aux autorités politico-administratives, mais même à la population, puisque la population doit recouvrer son état dans lequel il vivait dans cette province.
Monsieur Mathieu Tolomutataï, Radio Kapi vous dit merci.
C'est moi qui vous remercie, mon ami.
Okapi Sport. Le sport ce soir, c'est avec vous, Nanambala. Bonsoir.
Bonsoir Mimi Ngumba Mulongo, bonsoir à mes sportifs. Les Léopards de la RDC ont été battus cet après-midi par le Taif Stars de la Tanzanie sur la marque de 0-2. C'est un match amical disputé au Benjamin Mkapa National Stadium à Dar es Salaam. Les Léopards ont sombré dans les dernières minutes. Pourtant, le 45 premières minutes était, le score était des 0-2 partout. Mbwana Lisa Monta, 74e, et Yaya Shiza Ramadani, 88e, sont donc le bourreau de Léopard, une défaite qui sûrement aura des conséquences néfastes dans le prochain classement mondial de la FIFA. Nous vous rappelons que le pays occupe actuellement la 3e place en Afrique et 39e au monde. Les Léopards de moins de 20 ans, quant à eux, n'ont pas effectué les déplacements de Dar es Salaam comme prévu aujourd'hui. De petits problèmes administratifs se poseraient encore. Ils seront reçus ce samedi par le Taifa Star de moins de 20 ans de la Tanzanie en match aller des éliminatoires de la CAN. De la catégorie dont la phase finale se jouera au Niger en 2019. Le manche retour est prévu le 20 avril prochain ici à Kinshasa. Et puis en ce qui concerne le préliminaire de la Coupe du Congo, 54e édition pour le site de Kinshasa, on a démarré aujourd'hui au stade de Raphaël. Trois rencontres étaient au programme. OCK écarté et AC Brodeur par 1-0. De même que JS Tchangou qui a éliminé AC Oujana par au tir au but 4-3 après un nul de 0 but partout. Et le troisième match s'est finalement terminé entre l'équipe de Mont-Amba et JS Kinshasa au tir au but 4-2 en faveur de JS Kinshasa. En temps réglementaire, le score était d'un but partout. Demain mercredi, deux autres matchs sont prévus. Daring Club Massina jouera FC Lumière et Real de Kinshasa contre AC Kouya. Le quart de finale interviendront le samedi 31 prochain, tandis que les demi-finales auront lieu le mardi 3 avril. La finale, elle, se disputera le samedi 7 avril. Au Nord Kivu, 19 arbitres de Goma, 16 hommes et 3 femmes ont pris part à une séance de réflexion qui avait pour thème le football au Nord Kivu, opportunités et défis dans son développement, une initiative de la Ligue provinciale de football du Nord Kivu, et c'est Olivier Safari qui a animé donc ces séminaires. LD Vakaturaki, président de l'IFNOKI, nous en parle au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons profité du passage de l'international Safari pour qu'il puisse échanger avec nous. Vous voyez, les thèmes que nous avons proposés aujourd'hui, ils ne parlent pas simplement des arbitres, mais ils parlent du développement du football au Nord Kivu, les opportunités et les défis. C'est qu'à un certain moment, vous devez ouvrir votre capacité de réflexion et d'analyse pour essayer d'intégrer beaucoup d'aspects autres que les aspects arbitraux pour que vous puissiez participer au développement tout entier du football.
Notez que LD Vakaturaki a par cette occasion annoncé l'ouverture officielle du stade de l'unité de Goma réhabilité pour le 21 avril prochain.
Merci Nanambala pour ces informations sportives et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'informations mise en onde par Jean-Noël Mokondo, coordonnée par Innocent Olenga et supervisée par Pelamondo. Merci à vous de nous avoir suivis.